Chapitre 7. Pendant ce temps, Hector s'en allait sous bois, son chien narrait devant lui, et tout en broussaillant, il se disait « J'ai répété mot pour mot ce que le chambriot m'a dit, mais je veux être pendu si j'y comprends quelque chose. » Cette réflexion que le fils de Clapier venait de faire en entrant sous bois était juste. Hector avait été un instrument inintelligent des projets secrets du chambriot. Il avait dit, sans comprendre, ce que le chambriot l'avait engagé à dire, et les faits avaient été prodigieux. Du moins, tel était l'avis d'Hector. Il le répéta tout le long du chemin qui séparait la meunerie de la maisonnette de François Véru. « J'ai toujours eu dans l'idée, pensait-il, tandis que Maître Flambant, son chien d'arrêt, fouillait les broussailles en quête d'une bécasse, j'ai toujours eu dans l'idée que mon père n'avait pas la conscience bien nette. Je ne me trompais pas, puisque déjà il renonce à sa commission et consent à aller demander pour moi la demoiselle. Faudra voir s'il n'y a pas mieux à faire encore. S'il avait trouvé moyen de faire chanter le papa, ce serait superbe. » Comme il pensait ainsi, Flambant tomba en arrêt devant une épée. Hector prit trois fois, un lièvre partit et fut salué de deux coups de feu précipités. « Apporte, apporte, cherche, Flambant !» cria Hector. « Ce n'est pas la peine, monsieur Hector, dit le chambrion qui sortit des broussailles. « Votre lièvre est sain, comme l'œil, vous l'avez manqué. » « Ah, tu crois ? » fit le jeune homme désappointé. « Dame, murmura le chambrion d'un ton moqueur, on ne peut pas réussir en tout, chasser les héritières et tuer les lièvres. »« C'est vrai, dit Hector. Eh bien, avez-vous vu votre père ? » ?»« Oui, je l'ai un peu bouleversé, je t'assure. Vous lui avez dit, mot pour mot, ce que tu m'as dit. » Et il s'est troublé. Oh, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Alors il consentira à aller aux sapinières. Mais parbleu, il renonce au cent arpents de bois qui voulait me carotter. Mais dis donc, François, faut nous expliquer pourtant. Comment cela ? Mais qu'est-ce que tu as voulu dire par ces mots ? Il a touché le prix des sapinières deux fois plutôt qu'une. « Monsieur Hector, dit le chambrion, je vous préviens d'une chose, c'est que si vous n'êtes pas malin, votre père vous houlera. Si vous voulez savoir, il faut que vous restiez avec moi et que vous ne revoyiez pas votre père ce soir. C'est pour cela que je vous ai proposé un coup d'affût. » « Eh, dit Hector, si je ne rentrais pas à la meunerie, si je m'en allais coucher à votre ferme des Bauges qui est de l'autre côté de la forêt ?» « Cela vaudrait mieux encore, et je vous promets que demain, quand vous serez de retour, votre père serait allé aux sapinières faire la demande. »« Eh bien, ça me va, dit Hector, mais tu vas me dire... »« Écoutez, oui, votre père a touché deux fois le solde des sapinières. »« Mais comment cela ?» Lorsque M. de Méreuil revint de Paris, il alla payer votre père qui lui donna un reçu pour solde. Eh bien, et quand M. de Méreuil se fut suicidé, on chercha partout le reçu et on ne le trouva pas. M. de Méreuil avait eu la tête montée par la mère Clapier à l'endroit de sa femme. Il galopa à travers bois, passa dans les broussailles et ne s'aperçut pas qu'une branche d'arbre lui enlevait la sacoche qu'il portait en bandoulière. Et dans cette sacoche était le reçu. Le père Clapier le trouva. « Oh, je comprends, dit Hector, qui crut le chambrion sur parole, et il réclama une seconde fois le solde. Qui lui fut payé, monsieur Hector ? Mais, dit le fils Clapier, de combien était ce solde, François ? Bien de 200 000 francs. Oh, peste, dit Hector avec un gros rire. Oh, il n'y veut pas de main morte, le père, quand il s'agit de voler. Et il devint tout pensif. La maisonnette du Chambrillon apparaissait au travers des arbres au faîte desquels glissait un dernier rayon crépusculaire. « Alors nous allons donc à l'affût ?» demanda Hector, sortant de sa rêverie. « Oh, c'est-à-dire, répondit le Chambrillon, que je veux vous faire tuer un chevreuil, ce qui vous est peut-être jamais arrivé. Mais ce n'est point l'heure encore, et nous allons manger un morceau. » Le Chambrillon et Hector entrèrent dans la cabane. Alors le premier alluma du feu, dressa la table, et posa dessus un pichet de vin et un morceau de lard fumé. Puis il mit un morceau de graisse dans la poêle et dit « Oh, je vais vous faire cuire des œufs !» Le Chambrillon et son hôte s'attablèrent. Hector soupa d'un excellent appétit, tout en songeant aux écus et à la beauté de la demoiselle. À 8 heures, la lune se leva. « C'est le moment de partir !» dit François Véru. Et il couvrit son feu, prit son fusil, et passa une corde au cou de Flambant. « Ce chien va nous gêner, » dit Hector. « Bon, nous le laisserons chez Jacobi, le charbonnier. » Ce charbonnier, dont parlait François Véru, avait une hutte sous bois dans une vente du gouvernement dont il avait à fermer l'exploitation. Hector et le Chambrillon le trouvèrent assis sur le bord de son four à charbon et fumant sa pipe. « Tiens, lui dit Hector, veux-tu gagner une pièce de 10 sous? Ramène mon chien à la meunerie. » Le charbonnier prit le chien en laisse et se mit en route, tandis que le Chambrillon et Hector se dirigeaient vers cet endroit de la forêt qu'on appelait la mare aux chevrettes, et où la veille, nous avons vu François Véru rejoindre M. Horace de Verne. Le Chambrillon plaça Hector à 20 mètres de l'étang, dans une broussaille, et lui recommanda de ne pas fumer. « Bon, ne vous pressez pas, dit-il, ils viennent ordinairement par 2 et par 3. Le brocard d'abord, puis la chevrette et enfin le chevreau. Ajustez le brocard, et si vous le tuez roide, tirez sur la chevrette, mais respectez le chevreau, s'il y en a un. Est-ce que tu ne vas pas rester avec moi, toi ? Non, 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 je vais me porter un peu plus loin. » « Ah, et tu penses que les chevreuils viendront ?»« Bon, peut-être tout de suite, peut-être dans 1 heure, peut-être plus tard. »« Mais pour sûr, ils viennent toutes les nuits. »« Ah !» fit le Chambrillon souriant. « C'est une affaire de patience, l'affût. »« Mais ça réussit mieux que les chiens courants. » Hector se posta et arma son fusil. « Si vous tirez et que vous manquez votre coup, dit encore le Chambrillon, ne bougez pas et rechargez votre fusil. Il en viendra d'autres. Vous savez que la nuit, il faut toujours tirer un peu plus haut. »« Oui. »« Eh bien, bonne chance, je reviendrai vous reprendre ici. » Le Chambrillon contourna l'étang, puis au lieu d'aller se poster, comme il l'avait dit à Hector, il se mit à courir sous bois dans la direction des sapinières, où, comme on va le voir, il était attendu avec une vive impatience. Que s'était-il passé au château des Sapinières depuis la nuit précédente? Ben, on l'eût deviné facilement en voyant Mademoiselle Denise de Méreuil levée. Elle était pâle et languissante encore, mais elle souriait en regardant Horace agenouillée devant sa chaise longue et qui tenait une de ses mains dans les siennes. Madame Gertrude était auprès d'eux. Denise avait failli mourir, mais, comme l'avait dit le médecin, une grande joie l'avait sauvée. « Mon enfant !» était venue lui dire Madame Gertrude. « Monsieur le vicomte Horace de Verne nous fait l'honneur de me demander ta main, et je la lui ai accordée. » Ces simples paroles avaient produit une réaction violente chez Denise. La mort, déjà prête à la prendre, avait reculé. On avait attendu au matin pour donner une explication à la jeune fille. Alors, quand la crise nerveuse avait été passée, on lui avait tout avoué. Ses parents ne s'étaient point suicidés, on les avait assassinés, et la mémoire de monsieur de Verne, le père, était pure de toute tache. Denise, malgré sa jeunesse, était une fille d'un grand sens et d'un grand cœur. « Et où est le Chambrillon ? » demanda-t-elle. « Oh, il n'est pas au château, » répondit Horace. « Eh bien, répondit-elle, courez après lui, mon ami. Je ne veux pas qu'il dénonce l'assassin avant que je l'aie vu. »« Peut-être est-il déjà trop tard, » fit madame Gertrude. « Non, » dit Horace, « mais est-ce possible à présent ? Ne faut-il pas que la vérité se fasse jour ?»« Ah, » murmura Denise, « vous ne songez donc pas à lui, vous autres, à lui si bon, si noble, si dévoué, et que désormais on montrera du doigt en disant « Ah, c'est le fils de l'assassin !» Ces mots touchèrent Horace. Il se mit à la recherche du Chambrillon. Mais le Chambrillon était parti sans rien dire de ses projets. Il s'était borné à faire écrire à madame Gertrude cette lettre que nous avons vue adressée au fils Clapier. Horace était allé chez les Chambrillons. La chaumière était fermée. Il avait couru les bois, il était même descendu jusqu'à Salbris sans plus de succès. Comme il revenait, il entendit siffler dans le taillis voisin et reconnut la voix du brocard. Le brocard s'en allait aux sapinières en compagnie de sa mère, mais le Chambrillon était avec eux. Obéissant à ses mœurs, le petit braconnier, au lieu de suivre la ligne forestière qui allait droit au château, avait fait prendre à sa mère un faux chemin sous bois. La perpétuelle préoccupation du brocard était de ne point rencontrer en forêt un agent de l'autorité. Et la Malbec, qui, si elle ne braconnait pas du gibier, allait par-ci par-là voler un peu de bois mort pour son hiver, était au moins timorée à l'endroit des gardes. Horace appela le brocard, qui vint à lui aussitôt. « Hé, petit, lui dit-il, « n'as-tu pas vu le Chambrillon ?»« Ah, faites excuse, monsieur Horace, nous venons de le quitter. »« Et où est-il allé ?» Au moment où Horace avait rencontré le brocard, il était presque nuit. « Ben, il nous a quittés, » dit le brocard, « pour aller faire un coup d'affût. »« Et sais-tu où ?»« Oui, près de la mare aux chevrettes. »« Oh, eh bien, j'y vais, car il faut que je lui parle. » « Monsieur, dit l'enfant, sauf votre respect, n'y allez pas, si ça vous gêne moindrement de rencontrer le fils Clapier. »« Oh !» dit monsieur de Verne, qui tressaillit à ce nom, « il est avec lui ?»« Oui, et même, comme les gendarmes vont venir m'arrêter d'un moment à l'autre. »« Comment ? » interrompit Horace, « tu dis que les gendarmes vont venir t'arrêter ?» Oh, peut-être pas ce soir, mais demain pour sûr. Oh, ne me regardez pas de travers, monsieur Horace. J'ai pas fait de mal. C'est un faux témoin du beau-père, le garde au Clapier. Mais le Chambrillon m'a dit que ça s'arrangerait. D'ailleurs, il me cachera, et même qu'il m'a dit d'aller au château avec ma mère et qu'il viendrait m'y prendre. Et que signifie tout cela ? Pensait Horace, qui s'en allait aux sapinières en compagnie de la Malbec et de son fils. Et pourquoi le Chambrillon veut-il amener le père Clapier au château ? En arrivant aux sapinières, Horace envoya la Malbec et son fils à l'office. Puis il rejoignit Denise et sa tante, et tous trois attendirent avec anxiété le retour du Chambrillon. Enfin, vers 10 heures, celui-ci parut. Il était triste et grave, comme un homme qui a pris une résolution douloureuse, mais inébranlable. « Tu ne l'as pas dénoncé encore, au moins ?» s'écria Denise en le voyant paraître. « Non, mademoiselle. D'ailleurs, dit le Chambrillon, ton témoignage ne prouverait rien. Il faut qu'il se trahisse lui-même. »« Mais nous te croyons, nous, dit la jeune fille. » « Oh, je le sais. Alors pourquoi livrer ce malheureux à la justice? Pourquoi? Dit le Chambrillon. Mais pour qu'on sache bien que vous pouvez épouser monsieur de Verne. Eh bien, dit Horace, Denise a raison, et sa tante est de notre avis. Nous quitterons ce pays, mon pauvre François. Nous irons loin, et tu ne verras pas le nom de ton père flétri. Oui, dit la jeune fille à son tour en pressant la main du Chambrillon, nous nous en irons, et tu viendras avec nous, mon bon François. N'es-tu pas notre ami? Le Chambrillon secoua la tête. Non, il faut que justice se fasse, dit-il. Mais tu seras déshonoré. Mais j'aurai Dieu pour moi, mademoiselle. J'aurai la conscience d'avoir fait mon devoir. Oh, mon Dieu, murmura la jeune fille. Mais as-tu pensé à une chose, François? C'est que peut-être ton père n'est pas mort. Le Chambrillon secoua la tête. Je l'ai redouté souvent, dit-il, mais à présent, je ne puis croire le contraire. Il fut revenu un jour ou l'autre. Non, mademoiselle, mon père est mort, comme le vôtre, comme votre mère, comme le père de monsieur Horace, et c'est cet homme qui les a tous tués. Mais enfin, dit encore la jeune fille, n'avons-nous pas le droit de pardonner? Un nuage passa sur le front du Chambrillon. Non, non, dit-il enfin, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas ce droit-là, car cet homme a bien d'autres crimes sur la conscience. Ah, dit-il avec véhémence, vous ne savez donc plus le nombre des malheureux qu'il a ruinés. Mais parcourez les campagnes de notre pauvre Sologne, à 10 lieues à la ronde, et prononcez le nom de cet homme, vous entendrez des gémissements et des imprécations. Il a fait mourir des pères de famille en prison. Il a fait vendre le lit de la pauvre veuve et le berceau de l'orphelin. Eh bien, s'écria la jeune fille, si cet homme, en présence du châtiment qu'il a mérité, venait à se repentir. Mais jamais, cet homme a un cœur de bronze. Mais s'il restituait ce qu'il a volé? Oh, François, François, dit la jeune fille avec une vivacité émue. Il me vient une idée, une inspiration du ciel. Parlez, mademoiselle, dit François Véru. Si cet homme me rendait les 200 000 francs qu'il nous a volés, je les distribuerais dans le pays avant notre départ, à tous ceux qu'il a ruinés, et je réparerais ainsi le mal qu'il a fait. Mais au pied de l'échafaud, mademoiselle, cet homme refuserait de restituer. François, dit tristement mademoiselle de Méreuil, pourquoi ne veux-tu point me laisser cet espoir d'arracher une âme à l'enfer et un homme à la mort? Eh bien, soit, s'écria le Chambrillon, qui regarda mademoiselle de Méreuil avec un saint enthousiasme. Si vous amenez cet homme au repentir, mademoiselle, je lui ferai grâce. Mais, ajouta le Chambrillon en secouant la tête, vos efforts seront vains. Dieu est bon, murmura la jeune fille. Le Chambrillon quitta brusquement la salle où Denise, Horace et madame Gertrude se trouvaient. Il avait la tête en feu, ses tempes battaient avec force et ses jambes fléchissaient sous lui. Il s'en alla dans le parc et s'assit au pied d'un arbre, le front dans ses mains. Et tout à coup, une voix se fit entendre derrière lui, une voix d'enfant caressante et douce. C'était le brocard qui l'avait suivi. Le petit braconnier vint à lui. « Tu pleures ?» dit-il en voyant au clair de lune le visage de François, baigné de larmes. « Non, 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 ce n'est rien. Bah, tu ne diras pas que tu aimes la demoiselle, mon pauvre François ?» continua l'enfant. « Tais-toi, tais-toi !» dit le Chambrillon. « Ne répète jamais cela !»« Eh bien, quoi ?» poursuivit le brocard. « Est-ce qu'on est maître de son cœur, après tout? N'es-tu pas un honnête homme? C'est-il ta faute si t'es qu'un pauvre paysan? Oh, je pense bien que tu ne peux pas être son mari, mais t'as bien le droit de l'aimer. sans qu'elle le sache. Le chambrillon passa la main sur ses yeux. Oh, demain je n'aurai plus ce droit là, car je viens de creuser entre les bois la plus infranchissable des abîmes. Et prenant l'enfant dans ses bras, il lui dit encore: ta mère aura du pain pour ses vieux jours. Tu auras, toi, un travail honnête, et tu ne seras plus un braconnier, mais un garde-chasse. Vous me devrez cela, et si tu n'es pas un ingrat, tu me feras un serment. Oh, parle, dit l'enfant, parle, mon bon chambrillon. Jamais tu ne diras à âme qui vive que tu m'as vu pleurer et que tu as surpris le secret de mon cœur. Je te le jure, par mon père mort, répondit simplement le petit braconnier. Le chambrillon se leva. Maintenant, dit-il, songeons à toi. Les gendarmes viendront te chercher. Tu m'as promis de me cacher. Oui, oui. Et où donc? Chez moi. Oh, dit le brocard, mon père devinera bien tout de suite. Mon père ne devinera rien. Laisse-moi faire. J'ai mon plan. Où est ton chien? Il est là, répondit le brocard en montrant le gendarme, qui se tenait immobile et la queue basse derrière lui. Eh bien, va l'enfermer dans le chenil du château. Il n'y a plus de chien. Et tu lui diras de se tenir tranquille. Brocard obéit et revint trouver le chambrillon. Alors, celui-ci le prit dans ses bras et le chargea sur son épaule. « Mais que fais-tu ? » demanda l'enfant étonné. « Bien, je te porte pour que le gendarme, quand on lui ouvrira, ne puisse pas te suivre à la trace. »« Pourquoi ? » ?»« Mais, enfant que tu es, parce que la pauvre bête, en voulant te rejoindre, ne manquerait pas de te trahir. » Et le chambrillon se mit en route, emportant le brocard sur ses épaules. Ce ne fut qu'à un quart de lieue du parc et tout près de la barre aux chevrettes que François Véru mit l'enfant à terre. « Maintenant, lui dit-il, tu peux marcher. Où allons-nous ? Mais tu vas aller chez moi. Tu trouveras la clé de la maison sous une pierre auprès du puits. Oui, je sais où, mais tu ne viens pas donc avec moi ? Non, pas encore, je vais rejoindre Monsieur Hector. » Comme il parlait ainsi, un coup de fusil se fit entendre. Un de mort, dit le chambrillon. Bah, fit le brocard, dont tous les instincts s'éveillaient. C'est pas du gibier à bourgeois, ça, les chevreuils. Faut croire qu'il l'a manqué. Non, allez, va-t'en à la maison, n'allume pas de feu et couche-toi, dit le chambrillon. Je t'aurai bientôt rejoint. Et il quitta le brocard et descendit vers la mare aux chevrettes. Monsieur Hector jurait et pestait. Il avait tiré un brocard à 15 pas et l'avait manqué. « Je crois bien qu'il est touché, disait-il. « Où l'avez-vous tiré ? Demanda le chambrillon. « Ben là, comme il se baissait pour boire. « Bon, à cette distance, le coup fait presque mal. Si vous l'aviez touché, il serait resté sur place. « Oh, c'est à recommencer, monsieur Hector. « Mais c'est qu'il fait un froid de loup. « C'est vrai. « Et maintenant que vous avez tiré avant 2 heures du matin, nous verrons rien. « Oh, je vous conseille d'aller vous coucher, monsieur Hector. « À la meunerie ? « Non, 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 à la ferme des Bauges, comme c'est convenu. Je vais vous conduire. Nous dirons au fermier que nous avons un rendez-vous demain avec des chasseurs de la Motte-Beuvron, aux chênes pointus. » Hector et le chambrillon se mirent en route. « Oh ça !» dit le fils Clapier. « Sais-tu que ces 200 000 francs me trottent par la tête ? Vraiment ? Car enfin, si mon père les a volés à la demoiselle... Eh bien... Et que j'épouse la demoiselle, c'est comme s'il me les avait volés à moi. C'est juste. Et je te prie de croire que je les lui réclamerai. Oh, Il vous enverra promener. Eh bien, je porterai une plainte. À qui donc? Au procureur impérial? Mais on mettra votre père en prison. Oh, dame, fit Hector avec indifférence, c'est son affaire, ça, et non la mienne. Le chambrion regarda Hector du coin de l'œil et lui dit, « Mais si votre père va en prison, on le condamnera. » Le fils Clapier répondit avec calme, « Oh, ce ne serait pas ce qui pourrait m'arriver de plus malheureux, vois-tu, François. »« Comment l'entendez-vous, monsieur Hector ?»« Suis bien mon raisonnement. »« Oui, je t'écoute. »« On condamne mon père comme voleur. »« Bon. » »« Il est mort civilement. Il perd la gestion de ses biens. » Et on lui donne un tuteur. C'est juste. Eh bien, ce tuteur, c'est moi. Et voilà que moi, qui n'ai jamais la disposition d'un sou, je me trouve à manipuler tous les fonds du père Clapier. Mais, dit le chambrion, votre mère est capable d'en mourir. Oh, elle est solide, la mère. Et puis, l'argent, vois-tu, ça console de tout. Mais vous ne reculerez donc pas devant la nécessité de traîner votre père devant les tribunaux. C'est un fier déshonneur, ça, dit le chambrion. Bon, les fautes sont personnelles, et puis si on crie trop, eh bien, je vendrai tout par ici et je m'en irai à Paris. Là-bas, vois-tu, pourvu que vous soyez riche, ça suffit. On vous en demande pas davantage. Cet homme est comme son père, pensa le chambrion, dont le cœur s'était soulevé à ces ignobles paroles, et ce n'est pas la pitié qu'il m'inspire qui désormais m'empêchera de frapper. Hector Clapier venait peut-être, sans s'en douter, de prononcer l'arrêt de mort de son père. Chapitre 8. Le père Clapier était, dans la vie domestique, ce qu'il était en affaires, un homme dur et sauvage. Son fils l'avait effrayé d'abord, et pendant plus d'une heure, il fut comme sous le coup d'une prostration morale qui lui ôta la possibilité de réfléchir. Mais cet état fut de courte durée. Le courage lui revint, et avec le courage, cette énergie du mal qui chez lui était poussée aux dernières limites. « Ben, lui ferait rentrer dans la gorge ce qu'il s'est permis de me dire, » murmura-t-il en s'acheminant vers la meunerie. « Je laisserai pourrir dans ses haillons, car il n'a plus un sou de moi. » Il s'attendait presque à retrouver Hector à la meunerie, car le jeune homme avait contourné la maison en s'en allant et son père ne l'avait pas vu gagner la lisière du bois. Mais Hector n'y était pas. Il s'en allait à cette heure rejoindre le chambrion. Et ce fut la mère Clapier qui reçut l'orage. Elle était occupée en ce moment, en bonne ménagère qu'elle était, à fondre du beurre dans une grande jarre de grès brun, et ne se doutait nullement de ce qui était arrivé. « Où donc est Hector ?» demanda le marchand de biens. Ben, « Je croyais avec toi, » dit la grosse Lucane, née Jousserand. « Il n'est donc pas ici ?»« Non, notre maître, » dit la Jeannette qui rentrait, apportant un seau d'eau. « Il vient d'aller à la chasse. »« Oh, le gredin, le misérable !» dit Clapier. « Mais qu'a-t-il donc fait ?» exclama la mère Clapier, toute tremblante de la subite colère de son homme. « Mais il a manqué de respect à son père. Mais c'est ta faute à toi, femme, car tu l'as mal élevé, ce feignant, ce vaurien. Il n'aura pas un sou de mon héritage. » « Oh, je saurais bien l'empêcher de se marier !» La mère Clapier voulut parler, mais le marchand de biens continua. « Veux plus qu'il mette les pieds ici !»« Mais où veux-tu donc qu'il aille ?»« Au diable, si ça lui plaît !»« Mais c'est notre fils, et nous lui avons pas donné l'état. Que veux-tu qu'il devienne ?»« Il sera un valet de charrue, berger ou soldat, comme il voudra !» La mère Clapier n'avait jamais vu son mari dans une semblable irritation. Mais elle pensa que le meilleur moyen de le calmer était de se montrer de son avis. Mais si Hector t'a manqué de respect, dit-elle, il te demandera pardon. Je veux plus le voir. Et si tu oses le défendre, ajouta le marchand de biens, je te chasserai comme lui. Sur ces mots, le père Clapier quitta la cuisine, monta l'escalier de bois de la meunerie, et bientôt la mère Clapier et Jeannette, la servante, entendirent un vacarme épouvantable. C'était le marchand de biens qui, étant entré dans la chambre de son fils, jetait ses hardes par la fenêtre avec une malle, un fusil, un corps de chasse, une selle anglaise et un harnais de cabriolet. Tout cela tombait pêle-mêle sur le pavé de la cour, et l'on entendait le vieillard qui criait: Je veux rien de lui ici, rien de rien. Il emportera ses fruits où il voudra. La mère Clapier et la Jeannette se regardaient avec une sorte de terreur. Heureusement, il survint un événement qui força le père Clapier à se calmer momentanément. Il vit déboucher, par le chemin creux qui venait de Salbris, un homme monté sur une jument blanche qui trottait l'amble, et il reconnut un de ses fermiers qu'on appelait le grand Jacques, et dont la ferme se trouvait sur la route de Vierzon. Comme on était aux approches de la Toussaint, le père Clapier, en dépit de sa colère, se fit le raisonnement suivant: Oh, le grand Jacques est un fermier exact, il vient me payer sa rente. Or, rien ne calmait le père Clapier comme les écus. Il redescendit donc et dit à la Jeannette: Me mets dans un coin tout ce que j'ai jeté par la fenêtre. Il faut laver son linge en famille, et voici le grand Jacques qui apporte de l'argent. 5 minutes après, la mère Clapier et la servante avaient fait disparaître les traces de la colère du maître, que le grand Jacques, en entrant dans la cour, trouva souriant et de belle humeur. Le fermier descendit de cheval, attacha sa bête à un anneau fiché dans un mur, et ôta sa casquette de peau de loutre avec l'obséquiosité que les pauvres gens contractent dans les campagnes vis-à-vis de ceux qui possèdent le sol. T'es exact, mon garçon, dit le père Clapier. Viens par ici, je vais te faire ta quittance. Oh, faites excuse, notre maître, dit le grand Jacques. Je vous paierai la semaine qui vient, c'est-à-dire le lundi de Toussaint, en revenant d'Orléans. Oh, bon, dit le marchand de biens, je croyais que tu m'apportais de l'argent. Nenida, notre maître, non, je vais vous causer d'un malheur qui m'est arrivé. Oh, fit le clafier avec indifférence, t'as enterré quelqu'un, peut-être? Oh non, pas notre maître. Ou l'a picoté sur tes bêtes? Mais c'est pire, nous avons brûlé. Brûlé! Exclama Clapier, que le sentiment de propriété domina. Tu as brûlé la ferme des Regrattières? Oh, pas la ferme, mais la bergerie. Il reste que les 4 murs. Eh bien, dit le marchand de biens d'un air tranquille, tant pis pour la compagnie. La bergerie et les bâtiments qui en dépendent étaient assurés pour 17 000 francs. Juste le double de ce que ça valait, dit le grand Jacques, et pour 9 ou 10 000 francs, je me chargerais bien. Alors, fit le père Clapier, il y a tout profit à brûler. Je mettrai 8 000 francs dans ma poche. C'est que, reprit le fermier d'un ton timide, j'ai été moins prudent que vous, notre maître. T'avais pas assuré les bestiaux? Hélas, non. Et j'ai perdu 5 vaches, une paire de bœufs et 34 moutons. Oh, c'est un coup qui me ruine, notre maître, si vous ne me venez pas en aide sur l'argent que vous toucherez de l'assurance. Bon garçon, dit le père Chapier sentencieusement, quand on est puni par où l'on a péché, faut pas se plaindre. Si tu avais assuré tes bestiaux, la compagnie te paierait. Bon, ça me regarde pas. Alors, dit le pauvre homme, faudra que vous me donniez du temps. Du temps, pourquoi? Madame, pour mon fermage. Comment? S'exclama le marchand de biens. T'es pas en mesure? Hélas, non. Je comptais vendre mes vaches et mes moutons. Oh, tu t'arrangeras avec mon père, dit Clapier. Et il tourna le dos au fermier. Quand Clapier disait à un de ses fermiers ou à une de ses locataires, tu t'arrangeras avec mon père, le malheureux savait d'avance que 8 jours après, il aurait la visite d'un huissier et qu'on lui ferait vendre son outillage, ses récoltes et ses charrues, jusqu'à concurrence de parfaits paiements. Il s'en alla, la mort dans l'âme, ne se doutant pas qu'il venait d'apporter une déviation à la colère du marchand de biens. Ben, ces brigands, ces misérables, disait Clapier en se mettant à table, ne pas assurer leur récolte et leurs bestiaux, mais c'est-à-dire ma garantie. Bon, je lui ferai vendre jusqu'à son dernier poulain pour qu'il s'en aille. Je veux pas d'un homme comme ça chez moi. Mais la colère du père Clapier ne l'empêchait pas d'être inquiet et de songer de temps à autre aux mystérieuses paroles de son fils. Et à mesure que la soirée s'avançait, si ses nerfs se distendaient et se calmaient peu à peu, son esprit travaillait, comme on dit, et il se rappelait à merveille l'accent moqueur d'Hector. Hector n'était pas revenu souper. À 10 heures du soir, la mère Clapier, ne le voyant pas revenir, commença à s'inquiéter sérieusement. Tu l'auras peut-être battu, dit-elle. Non, non, dit Clapier, je lui ai seulement rien dit. Sois tranquille, il perdra rien pour attendre. Mon père revint. Il était de retour de Romorantin. Son arrivée apporta quelques distractions à l'esprit inquiet du marchand de biens. Qu'as-tu fait? Demanda-t-il. J'ai vu le procureur impérial. Et il n'a attaché aucune importance à la plainte, n'est-ce pas? Non, au contraire, il a fait appeler le brigadier de gendarmerie. Ha, ha! Fit Clapier en souriant. Et lui a donné un mandat d'arrestation. Ah, dame! Faut vous dire, ajouta mon père, que j'ai fièrement appuyé sur la chanterelle. Vous savez, on a commis un vol à Salbris le mois dernier. Oui, et on n'a pas su qui était le voleur, je crois. Mais je laissais entendre que ce pourrait être le brocard. Clapier regarda son garde et se prit à rire. Ben, j'aurais plutôt dans l'idée que c'est toi, dit-il. Mon père supporta cette plaisanterie assez bien et fit chorus avec son maître. Comme lui, il se mit à rire. La Jeannette, en ce moment, ouvrit la porte qui allait de la salle à manger à la cuisine. Tiens, dit-elle, voilà Jacomy qui ramène Flamband, le chien à monsieur Hector. Clapier se leva et vit le chien qu'on débarrassait de sa corde. Est-ce qu'il s'était perdu? Est-ce que tu l'as trouvé dans le bois? Demanda-t-il au bûcheron. Oh non, point, notre maître, c'est M. Hector qui m'a dit de le ramener, répondit Jacomy. Mais pourquoi donc il l'a pas gardé avec lui? Fit le Clapier étonné. Parce qu'il a dit qu'un chien d'arrêt, ça gênerait à l'affût. Oh, il allait donc à l'affût. Oui, avec le chambrillon, François Verru. Certes, en ce moment, si le Manet Tessel Farès biblique s'était tout à coup montré en lettres de feu sur l'un des murs de la salle à manger, le père Clapier n'eût pas éprouvé une sensation plus terrible. Le chambrillon. Ce nom devenait pour lui toute une révélation. C'était le chambrillon qui avait dit à Hector qu'il avait touché 2 fois son argent. Et la mémoire du père Clapier fit soudain un brusque et lointain retour vers le passé. Il se souvint que pendant la nuit du crime, il avait vu cet enfant que son malheureux père tenait par la main et qu'il ne s'en était point défié. Le chambrillon savait tout. Ce fut une nuit terrible que celle que passa le père Clapier attendant avec anxiété que son fils revînt. Il l'eût pris à la gorge, il l'eût questionné, il eût voulu savoir jusqu'à quel point le chambrion l'avait mis dans la confidence. Mais Hector ne revint pas. Alors mille circonstances oubliées se présentèrent à son esprit. Il se souvint que jamais le chambrion ne venait à la meunerie, qu'il évitait de se trouver sur son chemin, qu'il le saluait à peine, lui, clapier, devant qui tout s'inclinait, sinon par respect, du moins par terreur. « Oh !» se dit-il enfin, « cet homme a mon secret, cet homme sait que je suis un assassin. Cependant, il s'est tu pendant 15 ans. Mais pourquoi parle-t-il aujourd'hui ?» Certes, Clapier ne dormit pas comme la nuit précédente, mais il rêva tout éveillé, et ce rêve qu'il fit les yeux ouverts eut la cour d'assises pour théâtre et l'échafaud pour dénouement. D'abord, il s'était mis au lit, mais il ne put dormir et se leva. Enfin, au petit jour, après avoir erré dans le jardin, dans la cour, dans la pépinière d'acacia, fiévreux, tourmenté, il prit une grande résolution. La résolution d'aller au danger, tête haute, c'est-à-dire de se rendre chez le chambrion. « J'achèterai cet homme, se dit-il, il ne s'agit pas d'être l'âne aujourd'hui. » Et il partit, espérant toujours rencontrer son fils en chemin. Mais il arriva jusqu'à la clairière où s'élevait la maison de François Véru, sans avoir vu Hector. En revanche, le chambrion, les bras nus, cerclait fort tranquillement une futaille en chantant devant sa porte. Il était fort tranquille et avait l'apparence d'un bon ouvrier qui commence sa journée à la première heure sous le regard de Dieu. À la vue du père Clapier, il ôta sa casquette et lui dit « Bon, je sais pourquoi vous venez, notre maître. » « Oh !» fit le père Clapier, qui s'arrêta et sentit son cœur tressauter dans sa poitrine. « Tu sais pourquoi ?»« Oui, monsieur Hector n'est pas rentré à la meunerie cette nuit. »« C'est vrai, » dit encore le père Clapier, qui fixait sur le visage placide et souriant du chambrion un regard étrange. Ben, c'est peut-être un peu ma faute, reprit François Véru, mais vous savez, les jeunes gens, quand cela a quelque chose en tête. Oh, fit Clapier, à qui le calme du chambrion rendait quelque assurance. Et qu'avait-il dans sa tête? Ben, il est venu hier matin, il voulait tuer un chevreuil et m'a supplié de le mener à l'affût. Le père Clapier fit un pas encore. Et voyant l'attitude insouciante de François Véru, il se rassura plus encore. « Oh, il voulait tuer un chevreuil. »« Oui, pour l'offrir à la demoiselle des Sapinières. » Clapier reçut ce nom en pleine poitrine et ne sourcilla pas. « Car, poursuivit le chambrion, il en est toqué, la demoiselle des Sapinières, et à toute force il veut l'épouser. » L'accent du chambrion était si tranquille que le père Clapier se dit « Ou cet homme est plus fort que moi, ou il ne sait rien du tout. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, chambrion ?»« Moi ?» répondit François. Oh, « Je pense que ce n'est pas une raison, parce que la mère de la demoiselle s'est mal conduite et que son père s'est tué pour qu'elle ne trouve pas un mari. » « Eh, ma foi, si monsieur Hector veut bien, vous avez assez d'écus pour arranger ça. » Le chambrion s'exprimait avec une certaine indifférence. Clapier en fut comme dérouté. « Mais, dit-il, où est Hector maintenant ?»« Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il avait manqué un brocart superbe. Et puis... « Oh, il est allé se coucher à votre ferme, dont le fermier a 2 bons brassets. Il va se rattraper ce matin, pour sûr, et puis, » ajouta François Véru, « Paris, vous avez eu des mots hier soir, il m'a conté ça. Et que t'a-t-il dit? Il demanda vivement Clapier, que toutes ses angoisses reprirent. Bon, c'est encore un peu ma faute, peut-être, répondit de Chambrion, qui avait un naïf sourire aux lèvres. Figurez-vous qu'hier au matin, quand il est venu me demander de le conduire au Chevreuil, il m'a dit: Quoi, es-tu que mon père veut pas aller aux Sapinières? Il doit pourtant pas d'argent à la demoiselle, et elle non plus. On lui a payé le château. Ah, fit Clapier, dont le sang se figeait, il a dit cela? Oui, dit le Chambrion. Et moi, qui avais toujours entendu dire que monsieur de Béreuil avait payé les sabinières trop cher, je lui ai dit sans penser à mal. Oh, sans doute que votre père a été payé, et deux fois plutôt qu'une. Tandis que le Chambrion parlait, le père Clapier cherchait à le fouiller du regard jusqu'au fond de l'âme. Mais François Véru demeurait impassible. Alors, acheva-t-il, il paraît que monsieur Hector a pris ses paroles en mauvaise part, qu'il vous les a répétées et que vous vous êtes fâché. Dame, fit le père Clapier, on se fâcherait à moins. Faut probablement vouloir, dit encore le Chambrion. C'est ma faute pure à moi, monsieur Clapier. Et tu dis qu'il est à la ferme? Oui. Eh ben, j'y vais, dit Clapier, qui reprit son ton dur et arrogant. Et il s'éloigna, satisfait de l'explication du Chambrion. Oh, se dit-il, j'ai une fière peur. Ce garçon ne sait absolument rien. Oh, c'est égal, il me le paiera. Je lui lâcherai mon père un jour ou l'autre. Le Chambrion regarda le père Clapier s'éloigner. Alors un sourire silencieux lui vint aux lèvres. Oh, il a eu peur, dit-il. L'heure n'est pas loin où il se trahira. Tandis que le marchand de biens causait avec lui, le Chambrion était demeuré devant sa maison dont la porte était fermée. Et l'idée d'y entrer n'était point venue au père Clapier. Quand ce dernier fut loin, le Chambrion poussa la porte et entra dans sa cabane. Hector était fort tranquillement assis au coin du feu, et il avait écouté la conversation de son père avec le Chambrion sans n'y rien comprendre. Oh, ça, lui dit-il, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Monsieur Hector, dit le Chambrion, est-ce que vous avez toujours les 200 000 francs à cœur? Mais toujours, dit le fils Clapier, et si j'épouse la demoiselle, il les rendra. Eh bien, je sais un moyen, moi, pour qu'il les rende. Quel est ce moyen? Avez-vous de quoi écrire sur vous? Oui, j'ai mon portefeuille et un crayon. Écrivez alors ce que je vais vous dicter. Et le Chambrion dicta à Hector qui écrivit. Mon cher père, avec toute votre finesse, vous êtes plus simple qu'un enfant. Allez donc voir le Chambrion tout de suite. Il sait tout, et en y mettant le prix, en ne l'y ardant pas, vous vous tirerez peut-être d'affaire. Bien, dit le Chambrion lorsqu'Hector eut écrit et signé. Vous pouvez vous tenir tranquille maintenant. C'est-à-dire rester ici. Oh, non pas, répliqua le Chambrion. Reprenez votre fusil et allez chercher les bassins du fermier. On fera votre affaire bien mieux que si vous étiez là. Tu crois? Fit Hector, qui avait une grande confiance dans le Chambrion depuis le résultat obtenu la veille. J'en suis sûr, dit François Véru. Vous voyez bien que ce que je vous ai dit s'est réalisé. Étonnez, savez-vous où il est allé, votre père? Oui, à la ferme où il me croit. Non! Il a pris le chemin des Sapinières. Il est allé faire la demande. Vraiment, tu es sûr? Vous verrez. Mais que vas-tu faire de cette lettre que je viens d'écrire? Demanda Hector. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est mon affaire. Hector Clapier, comme on a pu le voir, s'il était doué de mauvais instincts, ne jouissait pas d'une grande intelligence. Il avait fini par considérer le Chambrillon comme un être qui lui était supérieur et il le croyait sur parole. Il lui laissa donc la lettre qu'il venait d'écrire, reprit son fusil et, quittant la maison, il gagna le chemin qui descendait à l'étang afin d'y reprendre l'allée forestière qui menait à cette ferme où il avait passé la nuit. Alors le Chambrillon leva la tête et siffla. Aussitôt la trappe du grenier se souleva et le brocard, qui s'y tenait tapis et dont M. Hector n'avait pas soupçonné la présence, montra sa mine éveillée. « Bon garçon, lui dit le Chambrillon, écoute-moi bien. » « Pas le Chambrillon. Tu vas rester où tu es. Tu as à boire et à manger, n'est-ce pas ?»«
Oui, sans doute. »
« Je reviendrai ici. Oh, quand? Je n'en sais rien. Peut-être ce soir, peut-être dans une heure, peut-être demain seulement. Et si tu entends venir, tu ne bougeras pas. »
« C'est bon, dit l'enfant, tu sais bien que je fais tout ce que tu veux. »
Le Chambrillon s'en alla. Quelques minutes après, il était sur le chemin des sapinières et passait comme une ombre auprès de Maître Clapier, qui ne l'aperçut point, séparé de lui qu'il était par d'épaisses broussailles.